Bonsoir Jérôme Val.
Bonsoir Hélène, bonsoir à tous.
Alors le foot hein, d'abord, 4 journées de Ligue 1, le PSG, même sans Neymar qui a décidé malgré tout de rester au club, est déjà en tête au classement.
Et oui, parce que Rennes a laissé passer une chance historique de prendre seul les commandes du championnat. Les Bretons qui étaient invaincus en 3 matchs ont été surpris cet après-midi sur leur pelouse par Nice, défaite 2-1. Et ils laissent donc le PSG en position de leader. Pas grave, explique l'entraîneur Julien Stéphan.
C'est très très bon comme bilan comptable, c'est très bon. On a joué le PSG dans ces 4 matchs-là, on a joué deux équipes solides à l'extérieur, Strasbourg et Montpellier. Voilà, et cet accro aujourd'hui, mais on n'était pas les meilleurs avant ce match-là, on n'est pas les plus nuls aujourd'hui, simplement on a besoin, nous, d'être à 100% tout le temps, sur toute la durée du match, pour pouvoir exister et mettre en difficulté nos adversaires quand ce n'est pas le cas. Mais on redevient une équipe quelconque et qui peut être mise en difficulté par tout le monde.
Et Rennes reste malgré tout sur le podium derrière, donc le PSG qui doit maintenant gérer le retour de sa star brésilienne dans le vestiaire. Neymar résigné à rester, à ne pas rejoindre le Barça. Et malgré ce transfert avorté, l'Espagne s'apprête à clore l'été le plus dépensier de son histoire avec 1,3 milliard d'euros investis. Alors on imagine Hélène, hein, si Neymar était parti.
Non, on n'imagine pas justement. c'était pas le seul résultat de l'après-midi, Jérôme.
Non, parce que dans le bas du tableau, Monaco n'y arrive toujours pas, de partout à Strasbourg, les monégasques toujours relégables. Lille a été battue à Reims 2-0. Et puis dernier rendez-vous ce soir au Vélodrome avec un classique de notre championnat, Marseille face à Saint-Etienne. Deux équipes à la peine en ce début de saison. Bonsoir Fabrice Michelier.
Bonsoir.
Vous êtes en direct du stade Vélodrome Marseille. Fabrice a l'occasion ce soir de rassurer un peu ses supporters après un été compliqué.
Oui, parce que c'est le temps un peu des désillusions et du désamour sur la Canebière. Les rêves du Champions Project promis par le propriétaire américain Frank McCourt à son arrivée fin 2016 semblent désormais bien loin. Les dirigeants marseillais peinent à sortir le chéquier pour renforcer l'équipe et concurrencer les ténors du championnat comme le PSG. Sur le terrain, l'OM sent d'ailleurs dans la continuité de sa saison moribonde de l'an passé. Si l'entraîneur a changé avec l'arrivée du Portugais André Villas-Boas à la place de Rudy Garcia, l'effectif est resté le même ou presque, avec seulement 2 arrivées pour l'instant, trop peu pour les exigences. Supporters marseillais, eux qui sont à peine rassurés par la victoire de cette semaine à Nice, la première de la saison.
Et du côté de Saint-Etienne aussi, on espère faire plaisir à ses supporters, mais alors pas pour les mêmes raisons. Cela fait 40 ans que les Verts n'ont pas gagné à Marseille. Il est temps de remédier à cette situation, reconnaît l'entraîneur Ghislain Printemps.
L'année dernière, déjà, on avait l'ambition d'arrêter un petit peu cette spirale négative. Et surtout, je pense à nos supporters qui souffrent de ces 40 ans, de ces échecs, je dirais, à répétition. Ça serait peut-être une belle occasion de renvoyer une note positive.
Allez, un dernier mot avec vous quand même, Fabrice Michelier. Dans le contexte actuel des chants homophobes, des banderoles, des interruptions de match, peut-on craindre ce soir au Vélodrome des débordements ?
C'est le sujet, surtout oui, la crainte qui entoure ce match. Et finalement, la question n'est pas tant de savoir si le match va être arrêté, mais plutôt à quel moment et s'il pourra reprendre. C'est vraiment l'inquiétude, surtout lorsque l'on connaît le passif entre les supporters phocéens et les instances de la Ligue. Les fans de l'OM également en conflit avec leur direction. Alors forcément, on craint le pire. Les problèmes ne viendront pas des Stéphanois, interdits de déplacement. Et si l'OM célèbre ses 120 ans d'existence ce soir, le groupe Ultra ses 35 ans, la fête risque bien d'être gâchée.
Et on verra tout ça, on espère que ça se passera bien à partir de 21h. Merci Fabrice Michelier en direct du stade Vélodrome de Marseille. C'est un départ idéal et un succès capital pour l'équipe de France de basket aux Mondiaux qui ont démarré en Chine. Courte victoire, 78-74 contre l'Allemagne. Les Bleus joueront mardi un match beaucoup plus abordable face à la Jordanie.
Allez, on passe au tennis. L'US Open et le début des huitièmes de finale. Aujourd'hui, c'est le grand Roger Federer qui ouvre le bal.
Le Suisse s'opposait en ce moment à David Goffin sur le court Arthur Ashe. Bonsoir Fabrice Amgral.
Bonsoir.
En direct de New York pour France Inter. Ça se passe bien pour Roger Federer ou pas ?
Ah oui, tout se passe très bien pour Roger Federer face à David Goffin, le 15e joueur mondial, finaliste hein, du dernier Masters 1000 de Cincinnati il y a 15 jours. Mais sincèrement, il est réduit au rôle de figurant, David Goffin, face à un Roger Federer en pleine possession de ses moyens. Il a remporté les deux premiers sets sur le même score, 6-2, 6-2. Le match a débuté il y a 1h05, 1-0 pour Federer dans la troisième manche. Goffin est au service et Roger Federer, qui à l'instant même réussit de nouveau le break, 2-0 donc pour Roger Federer. Alors c'est vrai que Roger Federer a eu un début de tournoi un petit peu poussif avec deux premiers tours peu convaincants. Il s'est un petit peu rassuré lors du tour précédent face à Daniel Evans, mais là, indiscutablement, il monte en puissance, Roger Federer. C'était un test hein, aujourd'hui face à David Goffin. Alors évidemment, le match n'est pas terminé, mais sur ce qu'il montre actuellement, Roger Federer, je vous le disais, est en pleine possession de ses moyens. Il sert maintenant pour mener 3-0 dans la troisième manche.
Merci Fabrice Sabral depuis New York. Et un peu plus tard, dans la nuit moite de la grosse pomme, c'est le numéro 1 mondial tenant du titre qui sera sur le court, Novak Djokovic contre Stan Wawrinka. C'était d'ailleurs l'affiche de la finale de 2016. Le Serbe, irrésistible en ce moment, reconnaît Wawrinka.
Ça risque d'être un match compliqué, quoi qu'il arrive. On l'a vu depuis Wimbledon l'année passée, il a pratiquement tout pris en Grand Chelem, il a été pratiquement imbattable. Donc ça va être compliqué, mais j'espère pouvoir sortir un gros match. Je suis capable de distribuer des deux côtés du terrain, je suis capable de tenir physiquement. Quand on joue les meilleurs, quand on joue le numéro mondial, on sait qu'on doit monter son niveau. Ça va être important surtout de rester avec lui, de lui montrer, l'envoyer les messages, les bons messages, voilà, essayer d'imposer ses frappes.
Premiers échanges, pas avant 1h du matin. Le top 14 de rugby est la fin de la deuxième journée et les lendemains de titres sont compliqués pour Toulouse. Deuxième défaite cette fois à Lyon, 22-12. Les Lyonnais sont co-leaders avec Bordeaux-Bègles. Le Racing 92 de son côté se rassure en dominant Castres 23-14.
Le rugby, Jérôme Val, désormais suspendu au choix du sélectionneur du 15 de France, Jacques Brunel, doit dévoiler demain soir sa liste de joueurs qui partiront pour la Coupe du Monde.
31 noms à dévoiler alors qu'ils sont 37 à avoir préparé ce mondial depuis deux mois. Vous avez fait le calcul, Hélène. Ils seront donc 6 à rester sur le carreau. Et ce n'est pas un moment très agréable, concède le doyen de cette équipe de France, Louis Picamol, pas encore tout à fait sûr de faire partie du voyage.
D'avoir vécu deux préparations, d'avoir vécu aussi ces moments qui sont compliqués pour un groupe, c'est important de pouvoir se dire au revoir à chacun à sa manière. Là, ce sera un peu différent. Donc c'est sûr qu'après le fait d'avoir vécu sur deux Coupes du Monde, c'est effectivement peut-être que j'appréhende ça avec un peu plus de recul, même si, comme j'ai dit, il y a quand même un enjeu et une pression, mais pour moi cette pression elle est plus positive que négative.
Et la liste sera dévoilée demain dans le 20h de TF1, mais sans le sélectionneur, c'est le présentateur Gilles Boulot qui s'en chargera. C'est une première pour une équipe nationale. L'hymne monégasque sur le circuit de Spa, le jeune pilote Charles Leclerc a remporté sur sa monoplace Ferrari le Grand Prix de F1 de Belgique devant Lewis Hamilton. Première victoire pour lui dans sa carrière, mais un succès plein d'émotions après le décès hier de son ami Antoine Hubert sur ce même circuit après un dramatique accident.
On a beaucoup parlé hein, il y a deux mois du succès populaire de la Coupe du Monde féminine de foot. Le retour sur terre pour les sportives est aujourd'hui cruel.
À l'exception de l'équipe de France de football qui a encore fait le plein hier soir à Clermont pour un match amical, mais à l'heure de la reprise des championnats nationaux, eh bien oui, le constat est là, les stades sonnent creux et ça ne touche pas que le foot. Le championnat féminin de handball a repris cette semaine et les difficultés n'ont pas disparu. Fanny Lechevestrier pour tous les clubs en précarité financière.
Le championnat féminin de handball avec des Françaises championnes du monde et d'Europe en titre, mais dont les matchs ne sont plus retransmis à la télévision. Aucun diffuseur ne s'est positionné au grand désarroi de l'international Alison Pinault.
Médiatiquement, c'est sûr que c'est une bataille de tous les jours. On doit réussir, je dirais, à se montrer, à sortir un peu de notre zone de confort et essayer de toucher des chefs d'entreprise qu'on n'a pas l'habitude de toucher.
Même à Metz, le plus grand palmarès du handball féminin qui attire 3000 spectateurs à chaque match, il faut trouver des moyens de se démarquer pour séduire les annonceurs. Son président, Thierry Vesman, assume de jouer la carte du glamour.
Nous, aujourd'hui, on joue sur l'esthétique. Vous savez que l'équipe de Metz est la seule en France à jouer en jupe. Bien sûr, on ne fera jamais un calendrier glamour déshabillé, ça arrivera jamais à Metz, mais en tout cas, on joue sur la féminité.
À Besançon, là, on a choisi de surfer sur la notion d'égalité pour tenter de convaincre une entreprise nationale. Une idée née d'une petite lassitude de l'entraîneuse Raphaël Tervel.
On en a un peu marre d'être traité différemment des garçons sur les subventions. Oui, nous les garçons qui sont en D2 pourtant touchent quasiment le même budget que nous en D1. Ça nous paraît tellement injuste, mais c'est tellement ancré dans la mémoire de tout le monde que ça devient presque normal, quoi. Mais voilà, il faut qu'on se bouge si on veut que ça change.
Toute une campagne de communication contre les discriminations est ainsi lancée par les engagés, le nouveau nom de l'équipe, mais sans télévision donc pour le moment, pour lui donner de la visibilité.
Allons maintenant nous enfoncer dans les eaux bleutées de la Méditerranée, dans ce monde des profondeurs qui fascine toujours autant.
Avec les championnats du monde. monde d'apnée qui démarre demain dans la baie de Villefranche-sur-Mer à côté de Nice. Les meilleurs spécialistes sont présents, tous héritiers de Jacques Mayol, avec des chiffres qui peuvent faire frissonner des descentes à une centaine de mètres sans respirer pendant plus de 3 minutes. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser un peu naïvement, eh bien la Méditerranée offre des contrastes parfois saisissants pour les apnéistes, notamment en termes de température, comme l'explique Morgane Bourquis, c'est l'un des meilleurs Français de la discipline.
C'est ce qui fait, on va dire, les caractéristiques de la pratique en fait en Méditerranée occidentale, parce que c'est vrai que quand on est un peu plus en Grèce ou à Chypre, ces eaux froides sont beaucoup moins marquées. Et c'est vrai qu'à Nice, voilà, même si on a des conditions en surface qui sont de l'ordre de 26 ou 27 degrés, hein, ce qui est très bien, on a la fameuse thermocline, c'est-à-dire la couche d'eau froide qui matérialise en fait les eaux plus profondes et qui est une barrière, on va dire, assez en général radicale, c'est-à-dire qu'on passe de 26-27 degrés à 14-15 degrés sur 2-3 mètres, grand maximum. Donc ça se fait assez radicalement. Et c'est vrai que la majorité des athlètes qui pratiquent à travers le monde, plutôt dans les eaux tropicales, on peut affaire à des thermoclines, on va dire, si violentes. Et là, effectivement, cette couche d'eau froide est peut-être un facteur de tension un peu plus important. Il faut s'y habituer. Moi, ça me dérange pas de plonger dans l'eau froide. Au contraire, je dirais même, il y a peut-être un effet un peu de contenance, voire même de symbiose et d'endormissement qui se crée un peu plus. Et voire même pour l'adaptation physiologique, c'est parfois plus facile d'être en eau froide et c'est tout à fait supportable par le corps humain.
Allez, on conclut ce journal des sports, Jérôme, par votre histoire du week-end.
Oui, quand le temps sportif ne suit pas le temps judiciaire, le petit club de football de Luznac en Ariège a appris que la cour administrative d'appel de Bordeaux avait finalement annulé une décision de la Ligue professionnelle l'empêchant à l'époque de monter en Ligue 2, décision qui remonte à 2014. 5 ans après donc, Luznac, un petit village de 600 habitants, obtient gain de cause. Sauf que bien sûr, le club n'est jamais monté en Ligue 2 et qu'il évolue aujourd'hui en Régional 1 en 6e division. Cruel destin.
Cruel destin, Jérôme. Merci beaucoup pour toutes ces infos sport.